le Grand Conseil vient d'accepter la nuitée pleine et entière sur la table publique. Mais c'est que le début, hein. Il y a tellement de choses qui nous attendent. Donc on va discuter de tout ça dans un tout petit moment. Il y avait une prise de parole.
En fait, on vient juste rappeler qu'il y a deux ans, en fait, ce qui nous a beaucoup plu, beaucoup motivé, c'était quand les services s'étaient mélangés, quand on avait fait tomber les verres les uns les autres. Et que cette année, par exemple, il y a certaines écoles où il y a zéro enseignant mobilisé. Et ce qui valait la peine, enfin, on avait testé les dernières fois, c'était par exemple quand les personnes d'un cycle étaient allées à la pause dans une école primaire pour informer. Ou alors, quand ça ne tombait pas sur le bon moment de tracter, il y a des gens du social qui étaient venus tracter devant notre école. Et ça, c'est le genre de choses qui motivent et qui font du bien. Voilà.
De ne pas mettre les enfants à l'école pour soutenir la mobilisation du service public. Il n'y aura aucune sanction apparemment, si j'ai bien compris. Sur les enfants qui sont absents à l'école, et c'est une façon de soutenir la mobilisation. Du coup, ben voilà, moi j'ai pas mis ma fille à l'école. Et je proposais, parce qu'à chaque fois c'est quand même un petit peu du jonglage à la dernière minute que font les enfants, justement pendant les AG ou les manifestations, on pourrait aussi s'organiser entre parents qui veulent soutenir de cette façon-là la mobilisation en ne mettant pas leurs enfants à l'école, en s'échangeant les téléphones, et puis on fait une permanence, il y a des lieux qu'on peut obtenir, on peut faire des tournus, et puis comme ça, je pense qu'aussi au niveau des enseignants, l'enseignante de ma fille et d'ailleurs toute l'école, tous les enseignants de l'école, personne ne fait la grève aujourd'hui ou cette année. Il y a deux ans, il y en avait juste deux. Et puis, mais je pense que si les enfants sont absents, par rapport en disant bien la cause de l'absence, ça peut aussi un petit peu faire bouger et faire questionner les enseignants. Il y en a beaucoup qui ne sont pas très au clair et tout ça. Peut-être qu'ils posent plus de questions. C'est une manière de.
On va continuer avec juste encore deux dossiers qu'on avait traités le 6 lors de notre dernière rencontre avec le Conseil d'État. On vient de parler de la nuitée, on vient de parler du budget. Une petite nouvelle sur la caisse de prévoyance, on est toujours, on garde le contact avec le Conseil d'État, on essaye d'avancer sur ce dossier, vous le savez, éminemment complexe, avec quatre projets de loi qui ont été déposés, un comité de la caisse qui doit se prononcer sur chacun de ces projets de loi. Donc on a dit, l'avancée qu'on a eue, une petite avancée, c'est qu'on nous a autorisé un expert pour qu'on puisse essayer de comprendre un peu mieux les enjeux par rapport à nos demandes. Donc c'est aussi le fruit de la mobilisation, ça je vous le garantis. Et puis le fait qu'on ait obtenu trois dates de discussion encore, qui ne régleront pas le problème de la caisse de prévoyance, c'est pas en trois heures de discussion qu'on pourra le faire, mais au moins le lien il est là, ils n'ont pas tiré la prise complètement, et ça c'est aussi dû à la mobilisation. Le dernier dossier, c'est pas le dernier, mais un des gros dossiers aussi, c'est SCORE. Et la dernière fois, je vous l'ai dit, hein, c'est une esbrouffe parce que tout d'un coup, c'est le conseiller d'État Hodgers qui reprend le dossier. Alors, on ne sait pas comment. Ça fait 7 ans que ce dossier est en cours. Il n'en a jamais approché la moindre page. Mais tout d'un coup, hop, il va reprendre le truc. Et on nous a dit en 5 minutes que peut-être, une fois que la loi sera déposée... Enfin, c'est pas ce que j'avais compris. C'est en lisant la presse le jour d'après... que j'ai lu la déclaration de Longchamp qui disait que je m'auto-allumais en disant qu'on allait pouvoir reprendre les négociations sur SCORE. Bon, nous, ce qu'on avait compris, c'est que c'était le cas. Apparemment, ça n'allait pas. Donc Longchamp, il pense qu'il va faire voter son projet de loi SCORE, qui va être accepté par le Grand Conseil. Et puis alors, après, il commencerait à voir avec nous comment on mettrait ça en place. Alors, je ne sais pas où il vit, dans quel monde, comment, mais on n'est quand même pas aussi stupide que ça au cartel, je vous garantis. Donc, c'est évident que pour nous, il n'y aura aucune discussion tant que ce projet de loi est déposé. Ça nous semble assez clair. Donc, sur score, honnêtement, il n'y a rien et il nous prennent vraiment pour des crétins et ça, ça suffit. Mais je vais donner la parole à Patrick qui va vous parler un petit peu de ce qui commence sur score dans les services.
Alors, score, c'est ça. C'est une chose de hackers, ça récupère le dossier, c'est peut-être parce qu'un verre a lancé que ça paye l'air. Autre supposition possible, il n'y avait que 3 grévistes dans le département de Psychers. Donc apparemment, score passait bien dans ce département. On a osé une formule devant la question des finances, pas de bras, pas de chocolat. Ça vous fait marrer, mais quand dans la même question des finances, certains députés pensent en cachette qu'ils font encore dégraisser le mammouth, tu vois l'écart qu'il y a entre vous et eux. Le mammouth, c'est nous, mais on s'en pourrait faire l'âge de glace. Aujourd'hui, on est franchement dans un réchauffement climatique. Quand on parle de la grève, c'est simple, la grève commence là où l'eau s'arrête. On dit ça pour vaincre. Score, ce matin, un service, et parlez-moi de la DGSI, qui est un des plus grands offices de l'État, il fallait tout seul, grosso modo, un département, 500 collaborateurs dans un office. Ce matin, la DGSI était conviée dans les salons feutrés du centre de conférence internationale de Genève à Barambé. Ils étaient dans les beaux fauteuils, ben ainsi, et on leur présentait Score, version DGSI. Ce matin, 500 collaborateurs ont appris que leurs fonctions de travail sont reclassées dans 33 fonctions types. Et ces fonctions types sont score compatibles. Ils ont vu arriver que leur classification par rapport à CEF, mais ils savent que le score est derrière. Ils ont vu que dans les 33 fonctions, ça incluait tout, de la secrétaire au directeur général. C'est déjà sympathique. Dans la fonction scorisée, ce qu'on a oublié de dire, c'est que les fonctions informatiques de la DGSI sont les fonctions de référence pour tout l'État. Ça inclut les autres écoles, ça inclut l'hôpital. Donc aujourd'hui, est arrivé quelque chose sur la table, c'est grandiose, qui n'était pas prêt depuis 2 ans, et ils ont utilisé la même méthode que nous à la police. On va chercher des métiers de référence, on les fait scorer, on les fait valider par le CEF, et on présente le tout au personnel. Donc la grande baffe est arrivée ce matin, 350 collaborateurs étaient présents, les autres étaient sur le terrain, mais la baffe est tombée, score se met en place à la DGSI, entre en fonction du programme février 2018, fin de l'opération à juin 2018, juste avant l'élection du Conseil d'État. Donc score n'est pas une falaise, score est là, et ça prend des tournures totalement abjectes pour certains, c'est le point de la réunion. Donc on a fait un tag ce matin qui commence par la couleur classique, un tract syndical. Et derrière, il y a un texte. Le texte, ça n'est plus. Je vais vous lire juste l'entête du texte. Obsolescence professionnelle programmée. Du CDI de Mme Bouchigraf à la DGSI de M. Maudet. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce que l'obsolescence professionnelle programmée, je peux vous le lire. L'obsolescence programmée consiste à engager du personnel en phase avec un niveau de technologie, puis d'engager d'autres avec un autre niveau de technologie. En maintenant le personnel sur une technologie aussi longtemps que cette année a été exploitée, sans possibilité de formation continue évolutive, l'employeur crée l'obsolescence professionnelle programmée. L'État se doit de maintenir l'employabilité de son personnel. Donc dans certains métiers techniques d'administration, on rentre à un niveau de fonction, on rentre avec un métier à toute connaissance, et après 15 ans, on est obsolète. En ce temps-là, on fait une restructuration, on regarde si nous correspondons à un score, C'est ce qui arrive aujourd'hui à la DGSI et c'est ce qui est arrivé à énormément de personnes qui partent dès 2018 et avec score. Donc effectivement, score est quelque chose de relativement important et les questions de règles de tous sont touchées. Merci.
Merci Patrick. Alors voilà, tous ces projets à répétition, toutes ces coupes, tous ces budgets d'austérité qui ont amené 470 millions d'économies récurrentes au projet de budget 2018. C'est l'économie réalisée par ce Conseil d'État en 5 ans. Mais ça, maintenant, c'est chaque année. Donc l'année prochaine, il y a déjà ça. Plus, maintenant, il y aura 44 millions en plus qui ont été annoncés avec le PFU, que vous rajouterez à ces 470 millions, on dépassera largement 2 milliards. Alors tout ça, ça a été fait pourquoi? Vous le savez très bien pourquoi ça a été mis en place. C'est parce qu'il fallait préparer l'arrivée de Feu et RIE3, et qui est maintenant revenu par la petite porte, qui s'appelle PF17, projet fiscal 2017. Je vais passer la parole à Paolo Gilardi, qui est à la table ronde sur des discussions sur PF17, justement. et vous rendre attentif au fait que les discussions ont repris et que les gens veulent absolument, les gens au Conseil d'État bien sûr, que ce projet passe rapidement la rampe, surtout que vous l'avez peut-être vu dans la presse, le canton de Vaud a annoncé qu'il voulait mettre en place sa version RIE3 votée à 80% il y a 2 ans pour janvier 2019. Voilà.
Bonjour tout le monde. Il y a un peu plus de 2 ans, depuis cette tribune, j'essayais d'expliquer les raisons pour lesquelles le Conseil d'État avait choisi 4 mesures structurelles. Et ces 4 mesures structurelles contre nous étaient la manière que le Conseil d'État envisageait pour pouvoir préparer l'entrée en vigueur en 2020 de la 3e réforme de l'imposition des bénéfices des entreprises. Depuis, on était en novembre 2015, depuis s'est passé un certain nombre de choses. 7 jours de grève qui ont balayé les 4 projets structurels du Conseil d'État. Et il s'est passé quelque chose le 12 février de cette année. 57% du corps électoral a décidé de renvoyer la 3e réforme de l'imposition des bénéfices des entreprises à l'expéditeur, c'est-à-dire à M. Ouli Maurer, chef du département des finances au niveau fédéral. Or, nous l'avons connu dans notre peau, dans notre travail, le Conseil d'État, de la même manière que le Conseil d'État, malgré le retrait obligé des mesures structurelles, il a essayé de passer en force par d'autres mesures auxquelles on est confronté actuellement. Au niveau fédéral, il se passe exactement la même chose. Et moins de 10 mois après le rejet populaire par 57% des voix du projet de réforme 3 de l'imposition des bénéfices des entreprises, le Conseil fédéral a mis en consultation un nouveau projet de RIE3, rebaptisé PF17, dont les contenus sont légèrement modifiés par rapport au projet initial. Peut-être vous vous souvenez que le soir du 12 février, on nous disait de partout, oui, ça a été l'arrogance des secteurs plus à droite du Parlement qui ont voulu des faveurs fiscales particulières qui ont fait que le peuple a refusé RIE3. Donc, puisque c'était l'arrogance des secteurs les plus à droite du Parlement, on a décidé d'amender un peu le projet de soumis au peuple en février de cette année avec quelques améliorations. Ainsi, par exemple, ce qui était prévu à l'époque comme la possibilité de déduire les pertes éventuelles qui auraient été occasionnées par le fait d'investir dans sa propre entreprise et pas ailleurs, cette possibilité-là qui existait dans la loi, elle a été supprimée de la nouvelle loi fédérale, elle sera remise à la volonté et à la disponibilité des cantons. De même, les déductions liées à, par exemple, aux gains occasionnés par les brevets, etc., avaient été plafonnées à ce moment-là à 80%. On pouvait déduire jusqu'à 80% d'un certain nombre de déductions, etc. Or, aujourd'hui, le projet du Conseil fédéral, il passe de 80% à 70%, à 70%. Alors que même le canton de Genève, dans sa première version du projet de RIE3, proposait de plafonner à 9%. Là, on est à 70%. Donc, en gros, ce que je viens de nous présenter au niveau fédéral, c'est une nouvelle mouture de RIE3 qui se transformera par une vague massive de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, sans que le Conseil fédéral, de la même manière qu'il n'était pas capable de le faire au mois de décembre et janvier de l'année passée et de cette année, sans que le Conseil fédéral soit en mesure de nous dire combien ça va coûter en termes de pertes de rentrées fiscales. Ils ne le disent pas, ils n'en parlent pas. Ce qui devient évident, et Gabriel Leprenot l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut être euro-compatible, et pour être euro-compatible, on augmente légèrement l'imposition des entreprises à statut et on baisse massivement l'imposition des entreprises qui ne bénéficient pas de statut spécial. Or, dans le canton de Genève, lorsqu'il y a eu le vote le 12 février, M. Serge Labusco nous a expliqué que, évidemment, compte tenu de l'arrogance fédérale, on pouvait comprendre que le peuple avait refusé la RIE3, mais que le projet de loi était un bon projet. Raison pour laquelle M. Labusco a réactivé le 3 octobre dernier la dite table ronde qui devait être un lieu de discussion pour discuter des modalités d'entrée en vigueur d'une réforme de l'imposition des entreprises qui permettent d'être eurocompatibles. La table ronde, contrairement à ce que Marc vient de vous dire, n'a pas seulement commencé ses travaux, il a dit une partie de la vérité, mais la table ronde a déjà terminé ses travaux. Il a suffi de deux séances, une à 7h du matin le 3 octobre et une à l'heure de l'apéro le 17 novembre, pour que la majorité de la trappe de la table ronde, à l'exception de la communauté genevoise d'action syndicale que, avec Jean-Luc Ferrière, je représentais, donne son aval à l'idée qu'il fallait saisir rapidement le Parlement pour que le Parlement adopte une réforme cantonale de l'imposition des bénéfices des entreprises qui va se traduire. Et ça, ce ne sont pas des chiffres qu'invente Paolo Gilardi, ce sont les chiffres donnés par le service de M. Dalbusco. Et M. Dalbusco nous a montré ses grandes capacités de prestidigitateur en matière de chiffres au cours des dernières années. Cette réforme de l'imposition des entreprises, souhaitée, fortement souhaitée par les associations patronales, elle se réduit à quelques éléments. Un, les entreprises à statut verraient leur imposition des bénéfices passer de 11,1 plus précisément à 13,8%. De leur côté, les autres entreprises, celles qui ne bénéficient pas de statut particulier, verraient leur imposition passer de 24,1 à 13,8%, c'est-à-dire une baisse d'impôt de l'ordre de 42,22% pour les grandes entreprises, y compris celles qui, comme ABB Sécheron, ont bénéficié de faveurs fiscales, ont bénéficié de commandes publiques et qui détruisent l'emploi ici. Donc 42,22% de réduction d'impôt pour les plus riches, il faut bien les retrouver quelque part, ces réductions d'impôts. Or, aujourd'hui même, on ne sait pas quel sera le montant de la compensation fédérale. Le canton de Genève avait exigé une participation à l'impôt fédéral direct de l'ordre de 21,1%. Le projet du Conseil fédéral prévoit beaucoup moins. Résultat des courses. D'un côté, il y aura 860 millions de francs par an, au bas mot, selon les calculs des services de M. Dalbusco, de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Il y aura une compensation fédérale relative et plus de contributions fiscales des grandes entreprises, avec comme résultat une perte sèche d'un demi-milliard de francs par an pour les collectivités publiques, 360 millions par an pour l'État, le reste à la charge des communes. Ça, c'est la réalité qui est en train de se passer sous nos yeux aujourd'hui. Il y a deux ans, et au mois de février, vous avez été capable de donner une réponse au projet du Conseil d'État. La réponse était 7 jours de grève, vous retirez mon projet. Aujourd'hui, ce n'est pas à moi, retraité, de vous dire si vous devez faire grève ou pas, mais je peux, en tant que retraité, me souvenir que quand on faisait la grève, on pouvait gagner. Aujourd'hui, on est devant la même situation. On est devant une situation dans laquelle on vous demande de plus en plus de sacrifices. On vous propose un budget où on vous dit « Oui, on crée 300 postes. » 300 postes. Alors que la planification sanitaire cantonale 2016-2020 dit, donc ce sont les services de M. Pojak qui le disent, dit que pour répondre au problème de vieillissement de la population et de maintien à domicile, il faudrait engager entre 450 et 800 personnes par an à l'IMAD.
Ouais.
Entre 800 personnes par an à l'image. Aujourd'hui, cela, on ne le fait pas parce que d'un côté, on est en train de faire des cadeaux fiscaux, de l'autre, on vous demande de faire des sacrifices, mais en même temps, on va demander à toute la population de faire des sacrifices parce que ceux que l'IMAD ne pourra plus prendre en charge, ils finiront à l'hôpital. Et les nuitées d'hôpital, ça se paye en termes d'augmentation des cotisations de la caisse maladie. Donc il y a un lien entre tout ça. Et tous les collègues qui pensent que c'est difficile de s'expliquer vis-à-vis de la population, il faut qu'ils prennent cet argument-là, qu'ils prennent cet élément-là. Tout ce qu'on décrit aujourd'hui du service public au nom des cadeaux faits aux plus riches, ça se traduit en fait par des ponctions dans les poches de tout le monde. Et c'est pour ça que je vous invite à rester extrêmement attentifs et à rester mobilisés contre PF17. Il faudra l'expliquer, ce PF17. Il faudra expliquer qu'il s'agit des cadeaux faits aux plus riches et qui déménagent les entreprises, qui délocalisent les entreprises, comme veut le faire ABB Sécheron, et que, du point de vue de la population, le seul vrai intérêt, c'est de défendre et nos services publics et les prestations à la population. Merci.
excusez, je viens d'apprendre que l'amendement PLR qui concernait le 14e salaire pour les OCAM et HUG a été rejeté. Qui attaque les Genevoises et les Genevois, qu'on ne va pas s'arrêter là. Et c'est pour ça qu'on vous propose la chose suivante. On va aller faire du bruit, parce que maintenant qu'on sait qu'on a gagné quelque part sur l'unité, hein, faut le dire, on a gagné sur l'unité, ben on va aller le dire, on va le dire très fort, on va leur montrer qu'on est là, qu'on est nombreux et qu'on est attentifs. Mais il va falloir continuer. Mais il va falloir qu'on prenne tout ça, parce que vous le savez bien, dans 10 jours, on va tous se reposer un peu, et Dieu sait si on en aura besoin. On va se reposer, on va oublier tout ça, on va faire une parenthèse, et puis dès janvier, il faudra repartir, reprendre la mobilisation, parce qu'elle ne va pas s'arrêter maintenant. Et vous serez là, je le sais, vous serez là, on va profiter de capitaliser sur tout ça. Vous le savez peut-être, il y a un projet de loi qui dort en commission au Grand Conseil, le PL, si je ne dis pas de bêtises de tête, c'est le 11-877, Jean-Luc, tu confirmes? C'est celui-là. C'est le PL 11-877 qui concerne justement le financement intégral de l'annuité et tout ce qui concerne donc les institutions subventionnées. Il semblerait que ce sera traité par le Grand Conseil justement le 25 janvier, c'est un jeudi. Et je vous propose que nous fassions, que nous fassions un rassemblement à nouveau sous les fenêtres du Grand Conseil lors de cette discussion et de ce vote, en solidarité avec les collègues des institutions subventionnées, parce que ce sera très important que ce PL passe. Il faut qu'il passe absolument. Il faut que l'annuité soit intégralement couverte par les subventions. Et donc, ça, c'est notre proposition pour la suite, de reprendre le 25 janvier par un rassemblement. Et on vous convie aussi à une assemblée du personnel dans la foulée, probablement le 29. Lundi, c'est pas 29. Alors, lundi 28. Jeudi 25, 26, 27, 28, 29. Merci. Lundi 29, mais vous aurez tout ça sur papier bientôt. Le lundi 29 au soir, j'espère ici, certainement ici, de faire une nouvelle assemblée du personnel où on pourra vous informer des derniers développements et puis véritablement regarder le calendrier. On aura peut-être des réponses sur la caisse de prévoyance. On verra si les choses bougent sur ce corps. Bref, ce sera véritablement la reprise et on fixe ça au 25 janvier. Alors, on vous informera, mais le rassemblement, on va le faire à 17h, quelque chose comme ça, que les gens puissent terminer le boulot et venir nous rejoindre sur la feuille. Et puis l'assemblée du personnel le 29, c'est généralement à 20h, donc voilà. C'est la proposition que la table vous fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres propositions de la salle. S'il y en a, ben merci de prendre la parole maintenant. Je n'en vois pas. Alors, sur la tenue d'un rassemblement le 25 à 17h sur la Treille, est-ce que...
Une
chose très courte, excuse-moi. Le 14e salaire proposé pour les OCAM de l'hôpital sur lequel le Grand Conseil est revenu en arrière, c'est vachement bien. Je pense que tu as raison, il y a une victoire, mais c'est en tout petit détail, c'est pas en 14e salaire, c'est en 15e salaire. Le 14e salaire a été introduit par une prime sauvage il y a 2 ans pour les OCAM de l'hôpital, qui correspond à près de 100% du 14e salaire et qui est toujours en vigueur. Là, ils demandaient en 15e salaire, qui s'appelle 14e salaire, parce que le prix ne s'appelle pas 14e salaire.
Merci pour cette précision, Mario. Alors, je reviens.
revient sur ma proposition. Les personnes qui sont d'accord avec la tenue d'un rassemblement à 17h le 25 janvier sur la treille, merci de lever la main, s'il vous plaît. Majorité évidente. Les personnes qui sont contre. Les personnes qui s'abstiennent. Merci, majorité absolue. Parfait. Bravo. Et puis sur la tenue d'une assemblée du personnel le 29, lundi 29 au soir à 20h. Je ne connais pas encore la salle, mais probablement ici. Ceux qui sont pour, merci de lever la main. Majorité évidente. Ceux qui sont contre. Et ceux qui s'abstiennent. Mais vous êtes magnifiques, hein, bien de Tokyo. Mais vous êtes magnifiques quand même, merci. On va passer au cortège, je vais passer la parole à Marco.
Merci. Donc vous avez compris l'importance qu'il y a à rester ensemble. On l'a bien souligné. S'il y a un message qu'il faut retenir de cette assemblée, qu'on voulait souligner enfin, c'est la relation qu'il faut faire entre l'état de la mobilisation, l'importance de la mobilisation et les résultats qu'on en rend. Il y a une relation directe, vous l'avez bien compris. Vous avez aussi compris que ce qui reste devant nous, c'est des tâches ambitieuses, parce que le Conseil d'État a fixé la barre très haut, avec la CPG Espoir en particulier. Ce qui veut dire, c'est une simple soustraction, ce qui veut dire que si on veut obtenir de meilleurs résultats, il faut augmenter l'état de la mobilisation. Alors je voulais juste vous suggérer un petit devoir pour les vacances, le pont de Noël. Prenez sur vous de venir à la prochaine Assemblée Générale du Personnel avec 5 collègues. Parce qu'on a besoin d'être 5 fois plus nombreux pour faire reculer définitivement le projet du Conseil d'État et pour les approcher. Merci.
Petite nouvelle de l'état des grèves. Dans un office de l'état, le personnel ne peut pas faire grève. Daniel, ils sont autour pour faire un contrôle nominatif des absents et des présents. C'est le compte, c'est que c'est le cirque. Relation du travail.
Ah, bah oui, le cirque, c'est.
Voilà, vous voyez, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc le cirque qui interdit, qui contrôle son personnel. Prends la parole, je t'en prie. Prends le micro. Alors, une proposition de retourner la semaine prochaine se rassembler sous les fenêtres du Conseil d'État pour mettre la pression encore sur le budget. Mais peut-être que le budget est fini demain. Donc on ne sait pas, c'est aujourd'hui et demain. Donc je crois qu'il faut garder un peu de force. Et honnêtement, la dernière fois, tu vois, le 4, on l'a fait. Le 6, on a dit, faisons un petit rassemblement. Et puis effectivement, c'était un petit rassemblement, on était 200. C'était bien, hein, bravo à ceux qui sont venus. Mais, bravo, vraiment, mais est-ce qu'il faut vraiment encore remettre la compresse? Gardons des forces, je crois qu'il y a... le combat, il va être vraiment long. Et je pense que la pause nous sera bénéfique. Et le 25, si le devoir qu'on vous demande de faire est vraiment fait, et qu'on ait 5 fois plus, je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais on peut voter sur ta proposition, il n'y a pas de problème. S'il y a des coups de théâtre, écoutez, s'il y a des coups de théâtre, si vraiment on sent, on entend demain qu'il y a des trucs qui remettent la pression, on organisera quelque chose. On le laisse ouvert comme ça, d'accord?
Ok.
Ça vous va? Oui. On est alors. S'il y a toujours, on part où le budget, on va nous retrouver la semaine prochaine déjà. Merci de lever la main. Ouais, majorité évidente. Qui est contre? Qui s'abstient? 3, 4, ouais, une dizaine de personnes. Merci. Alors, on va partir, on se met en cortège.